Dis-le bon sang, comme vous l'avez dit, qu'est-ce qu'il écoute? Bonsoir et bon début de semaine à tous. Lancement la semaine dernière par le ministre de l'Énergie d'un programme qualifié d'extrême urgence pour stopper la dégradation de la fourniture en électricité à Kinshasa, estimé à plus de 51 millions de dollars. Ce programme a une durée d'exécution de 7 mois. Quelle analyse faire de ce programme proposé par le gouvernement? La libéralisation de ce secteur serait-elle une solution efficace pour améliorer la fourniture en courant électrique sur toute l'étendue du pays? C'est notre thème de ce soir. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Yengo Masampou, administrateur directeur général de la Société nationale d'électricité SNEL, il est avec nous dans ce studio. Monsieur la DGE, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Célestin Avounabandi, député national élu de Rutshuru, il est ancien ministre de l'économie et du portefeuille. Il est en ligne. Célestin Avounabandi, bonsoir. Apparemment, il n'est pas encore en ligne dans ce studio avec moi, Maître Patrick Joseph Lendo, il est analyste politique. Maître Patrick, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes déjà très nombreux à nous envoyer vos réactions, c'est le cas de Alain Yard. Je me demande pourquoi cette mesure n'est pas prise pour les autres provinces, mais seulement pour la ville de Kinshasa, Kasamba, Wanango de Bounia en province orientale. La libéralisation de la SNEL est souhaitable, mais le pays va-t-il en profiter comme il se doit dans ce pays où l'égocentrisme habite la plupart des décideurs? Merci de nous suivre partout en RDC sur la fréquence FM et à travers le monde. Rejoignez-nous sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 58 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radioocapi.net.
Un programme d'extrême urgence pour stopper la dégradation de la desserte en électricité à Kinshasa a été lancé la semaine dernière par le ministre de l'Énergie, Gilbert Tongo, estimant plus de 51 millions de dollars. Ce programme vise à stabiliser la situation de la desserte. Il applique des solutions adéquates aux perturbations qui se posent dans la distribution de l'électricité pour une amélioration rapide. Durée d'exécution de ce programme, 7 mois. Jeff Ngoy nous en dit plus.
Au niveau de la SNEL, plusieurs mesures sont prises, notamment la remise en service de différentes machines actuellement à l'arrêt dans les centrales hydroélectriques d'Inga 1, 2 et Zongo. À la distribution, la remise en service du transformateur du poste Lingwala et l'installation du nouveau transformateur du poste Funa. Le ministre explique ce qui différencie ce programme des autres réguliers.
Le suivi régulier, hebdomadaire, l'évaluation et la relance par une cellule mise en place. La campagne spéciale de communication qui va accompagner ce programme pour une meilleure traçabilité et transparence sur la gestion des pannes et leur réparation pour atténuer le délestage et réduire le gêne occasionné. La publication des programmes de délestage, l'heure du début et de fin, les pannes et leur réparation, la prise en charge des réclamations des clients avec des numéros verts à utiliser pour communiquer avec la SNEL.
Un acte d'engagement est ainsi signé entre les responsables de la SNEL, de la Régie des Eaux, le gouverneur de la ville et le ministre de l'Énergie.
Monsieur l'ADG Yengo Masampo, vous êtes l'administrateur directeur général de la SNEL. Plusieurs mesures ont été prises pour concrétiser ce programme. Et entre autres, la remise en service des différentes machines actuellement à l'arrêt dans les centrales hydroélectriques d'Inga 1, 2 et Zongo. L'installation d'un nouveau transfo à Funa, 51 millions de dollars, est-ce suffisant pour concrétiser ce programme?
Alors, pas du tout, alors. Pas du tout. Il nous en faut plus que cela. Mais vous avez suivi, il s'agit d'un programme d'extrême urgence. Nous sommes tenus donc à sélectionner certaines causes qui font que la desserte soit relativement bien dégradée ces derniers temps.
Alors, pourquoi seulement la ville-province de Kinshasa pour le moment? C'est aussi la préoccupation de Alain Yavé.
Oui, il a raison. Mais la société n'arrête pas son activité normale. Ces programmes d'urgence, c'est vrai, ça vise la capitale. Mais entre-temps, la SNEL continue à travailler normalement.
Alors, 7 mois, ce programme, la durée d'exécution de ce programme est de 7 mois. Donc, après 7 mois, vous êtes sûr que vous aurez mis fin au problème de délestage que connaît la ville de Kinshasa?
Non, il ne faut pas confondre les choses. Un programme d'extrême urgence les autorités l'ont bien dit, c'est pour réduire un peu la dégradation qui est devenue relativement importante.
Concrètement, c'est-à-dire quoi, M. Nadine?
Mais concrètement, c'est quoi? Vous avez déjà cité quelques actions que nous devons faire. Partant de la production, nous devons augmenter le productible pour que celui-ci soit beaucoup plus en réserve par rapport à la demande. C'est la remise en service des machines à Inga 1, à Zongo, et à Inga 2. Pour votre information, nous avons déjà mis les deux machines déjà en service, donc à Inga 1 et à Zongo. Donc ceci est déjà lancé par nous, pour nous depuis un certain temps, et maintenant c'est la concrétisation de certaines actions. Nous évoluons donc dans la distribution. Vous avez parlé de la remise en service de transformateurs pour ces lignes. Voilà, c'est un transformateur qui nous a créé beaucoup de misère, qui nous en crée encore. Mais nous sommes cette fois-ci au bout parce que nous avons mis à mettre toutes les stratégies en route. La dernière, c'est commander Karma des pièces neuves en Europe. Nous attendions personnellement, je me suis déplacé jusqu'à l'aéroport, espérant que, et comme cela nous avait été indiqué, que ça viendrait par avion de CBR, mais ce n'était pas le cas. Nous sommes en train d'attendre une tonne et demie de bushings, donc ce sont des pièces qui font défaut pour la remise en service de ce transformateur.
Alors, le transport que vous allez installer, ça sera un nouveau transformateur ou bien ça sera un ancien, comme celui de Lingwala?
C'est un ancien, parce que le nouveau que nous avons acheté par anticipation a été utilisé suite à une avarie aussi, disons, suite à un incendie qui s'était déclaré au niveau des postes de Lingwala encore. Celui-ci, c'est un transport réparé, en attendant que ce que nous avons commandé arrive, parce que nous avons effectivement commandé le transformateur.
Alors, beaucoup d'auditeurs se posent la question, pourquoi seulement maintenant ce programme d'extrême urgence?
Le gouvernement est souverain. Le gouvernement a constaté que les conseils de décès de la vie de Kinshasa sont devenus assez, pas du tout intéressants, si vous pouvez dire ainsi. C'est une façon qui est ponctuelle, qui a été accentuée par cette fameuse avarie du transformateur de Lingwala, et aussi le matraquage des câbles sur l'avenue Colonel Mongiba, parce que tous les câbles ont été massacrés par les engins de terrassement. Et il fallait donc prendre une action beaucoup plus importante, beaucoup plus énergique. Et c'est ce top ponctuel est en train d'être contenu, mais étant donné la situation de distribution qui est assez préoccupante tout de même, il a fallu prendre, le gouvernement a décidé de faire un programme particulier. Nous sommes des exécutants là-dessus. C'est en quelque sorte une chose que nous faisons aussi, mais c'est mis dans un programme du gouvernement. Et comme le ministre l'a dit également, c'est avec un encadrement un peu particulier aussi.
Alors, M. Ladejean, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani dans la province orientale.
C'était le Shongi Botomoto depuis Kisangani. Les problèmes de l'électricité, ce n'est pas toujours à Kinshasa, c'est partout au Congo. Moi, je me demande, c'est sur base de quoi qu'on a fait ces projets qui ciblent seulement Kinshasa. Ensuite, Kinshasa a 24 communes. Pourquoi avoir ciblé seulement 8 communes? Pourquoi aussi attendre le moment où on s'apprête aux élections pour réaliser ces projets? Afin, qu'est-ce qui est prévu pour les autres provinces du pays à ce qui concerne l'électricité? Parce que le problème de l'espace, c'est partout au Congo.
Monsieur Ladejean.
Oui, il a suivi. Il n'y a pas seulement 8 communes qui sont concernées. On a parlé de 8 communes, ça, c'est une action d'un projet que nous avons avec une société égyptienne. Mais notre programme s'étend sur tout l'ensemble de la ville de Kinshasa. Il n'y a pas seulement Kinshasa. Je disais tout à l'heure là que la CNIL ne s'arrête pas parce qu'il y a un programme d'urgence qui est instauré au niveau de la ville de Kinshasa. L'activité continue. Notre frère à Kisangani ne voit pas que Kisangani est à l'arrêt. Non. Kisangani continue à fonctionner. Nous continuons à nous préoccuper de ce problème également. C'est pas un problème d'élection, ça faut bien noter. Nous sommes là pour assurer la production d'énergie. C'est tout le monde et les meilleures conditions. Élection ou pas élection, nous devons le faire. Ça, c'est, faut déparer la population croit que c'est maintenant pour les élections le fait. Non, nous les faisons normalement, mais compte tenu de cas de dégradation ponctuelle, il a fallu prendre certaines mesures aussi particulières.
Mais les autres provinces, ce programme va, les autres provinces seront concernées quand, exactement?
Non, mais justement, je voulais bien faire savoir. Il ne s'agit pas de faire un programme d'urgence pour toutes les provinces. La société continue à fonctionner. Les préoccupations que nous rencontrons à Tadi, à Lubumbashi, à Bukavu ne sont pas du tout abandonnées. Elles sont prises en compte, donc elles sont totalement prises en compte. Nous sommes en train de les résoudre, donc ces préoccupations. Mais à Kinshasa, nous avons dit ponctuellement la situation s'est dégradée. C'est vraiment le siège des institutions. S'il faut commencer dans 10 endroits, il faut commencer quelque part. nous commençons déjà ça, mais rien ne dit que nous avons abandonné le reste de la capitale, disons, du pays.
Merci, monsieur l'ADG Célestin Vonabandi. Vous êtes député national élu de Rutshuru. Vous êtes ancien ministre de l'économie et du portefeuille. Bonsoir.
Bonsoir, madame.
Alors, quelle analyse vous faites de ce programme proposé par le gouvernement?
Merci, madame. Je voudrais d'abord saluer la délégation qui est invitée, présent, j'espère, dans votre studio. Je voudrais également féliciter le gouvernement pour avoir pris l'initiative, finalement, de réaliser que la situation était grave et vite de pouvoir mettre en place un programme d'extrême urgence. Mais comme d'autres observateurs, je voudrais formuler d'ores et déjà un certain nombre d'observations à ce programme. Et je crois que vous avez entendu des auditeurs poser des questions qui sont des questions tout à fait pertinentes. Et mes observations vont s'articuler sur trois ou quatre points. Et la première observation a été formulée par les auditeurs, c'est le fait que ces programmes d'extrême urgence concerne Kinshasa d'abord. C'est vrai que Kinshasa, la situation s'est dégradée depuis quelques temps, mais il faut constater que la situation est quasiment la même, identique dans beaucoup d'autres villes du pays. Lorsque vous allez à Lubumbashi, à Goma, à Kisangani, ailleurs, vous constaterez que la situation s'est aussi dégradée dans ces villes-là. Et donc, la préoccupation des gens quant à savoir qu'est-ce qui est prévu pour ces provinces-là ou ces villes-là, qu'est-ce que le gouvernement comptait faire. En fait, il ne faudrait pas donner l'impression qu'on ne s'occupe que de la capitale et qu'on a oublié le reste du pays. J'aimerais juste que l'ADG ait donné quelques éléments de réponse, mais tout de même, la préoccupation reste posée. La deuxième observation, c'est par rapport au pilotage du projet lui-même ou du programme lui-même. Lorsqu'on a suivi monsieur le ministre de l'énergie, on a compris qu'il y a une forme d'interventionnisme qui caractérise la suite du gouvernement au point qu'un comité de pilotage a même été prévu pour cela. C'est une façon de s'assurer finalement que ce que le gouvernement vient de décider va être suivi. Mais doit-on là-dessus penser qu'il y a une forme de désaveu qui est exprimé à l'endroit des gestionnaires de ces deux entreprises? J'espère que non. Mais si tel n'est pas le cas, et je m'en réjouirai, j'espère aussi qu'il n'y aura pas une forme d'interférence politique dans la façon dont le programme sera géré. Je voudrais bien m'assurer que ce programme, qui est évidemment un programme technique, un programme qui porte sur des problèmes techniques, ne sera pas, en cette période de critique, ne sera récupéré sur le plan politique et donc faire l'objet d'une exploitation politicienne. Et donc, je pense qu'il va falloir là-dessus responsabiliser effectivement les dirigeants de ces deux entreprises, la SNEL comme la Régie des Eaux, et les laisser assumer leurs responsabilités pour qu'effectivement ils puissent faire leur travail. Ils sont là pour le compte du gouvernement, il faut qu'ils fassent leur travail. La troisième observation, c'est que je pense qu'un programme aussi important aurait dû être engagé après un état, un dossier qui en fait permettrait à l'opinion de se faire un état des lieux sur la situation réelle des infrastructures d'électricité et d'eau, la situation un peu du service public et le niveau des problèmes affrontés. Je constate qu'en fait cet état des lieux n'a pas été fait, il n'est pas connu. Et donc le risque qu'il y a, le risque c'est quoi? C'est que le pilotage de ce programme se fasse à l'absence des règles de transparence nécessaires en cette période. Donc il est important d'ores et déjà que les autorités, notamment les ministres de l'énergie, fassent un état des lieux, tout au moins pour la ville qui s'est sacrifiée par ce programme, pour qu'on sache exactement quels sont les problèmes réels et quels sont les problèmes qui pourraient être rencontrés par les 55 millions de dollars. L'ADG lui-même tout à l'heure a dit que les 55 millions de dollars pour l'état de la SNEL pourraient s'avérer insuffisants. Mais alors il faudrait qu'on sache avec exactitude quels sont les vrais problèmes qui pourraient être rencontrés avec les 51 millions pour que de nous après demain, on sache en fait si les moyens qui ont été mis à l'œuvre n'ont pas suffi, soit qu'ils étaient insuffisants, soit que que s'il y a eu des problèmes de gestion, qu'elle aurait sache. Donc, en fait, j'insiste là-dessus qu'un état des lieux est nécessaire pour que ce projet se fasse en toute transparence, ce qui est nécessaire pour que les choses soient correctement. Enfin, je voudrais faire des observations quant aux mesures préconisées. J'ai compris que il y a deux types de mesures, des mesures au niveau de la production et des mesures au niveau de la distribution. Au niveau de la production, le ministre, tout comme la DG Yengo, parle de la remise en état de l'arrêt en service, c'est-à-dire des machines actuellement à l'arrêt à Inga et à Zongo. Mais je suis en train de me poser la question de savoir si les ressources, les 51 millions disponibles pour ne parler que de la semaine, pourraient vraiment être suffisantes pour faire face à un problème de remise en service des machines. Voilà pourquoi même je parlais de l'état des lieux qui est indispensable. Ça, c'est donc la première observation au sujet donc de ce niveau-là, le niveau de la production. Mais l'autre observation, je constate qu'en fait, là, on revient encore sur un grand débat, le fameux débat de la réhabilitation de machines à Inga, où je me souviendrai qu'il y a quelques années, deux ans, je pense, il y a eu un gros débat qui s'est même porté jusqu'à l'Assemblée nationale, au Sénat, sur la réhabilitation de Inga. Je constate à ce niveau-là qu'il y a eu beaucoup de temps perdu, qu'il y a eu un débat stérile peut-être, mais que malheureusement, pendant tout ce temps que ce débat a été fait, on n'a pas prévu des solutions de rechange. Pendant qu'on débattait, la SNEL aurait dû penser notamment à des solutions de rechange, lui qui notamment s'opposait à ce que, pour ne parler que du cas de Mag d'énergie par exemple, qui puisse réhabiliter quelques tribunes, on aurait pu proposer des solutions de rechange, peut-être que les choses serait aller beaucoup plus vite, on n'en serait pas là aujourd'hui.
Merci, Célestin.
Je vais parler, madame.
Je veux vous redonner la parole. Le temps pour moi de poser la question à notre analyste, maître Patilendo. Je veux vous redonner la parole, Célestin Mounabandi. Patilendo, qu'est-ce que vous pensez de ce programme proposé par le gouvernement?
Merci, madame, de m'associer encore à la réflexion que j'ai toujours voulu, je dirais, patriotique. Mais qu'est-ce que je pense de ce programme? C'est la tristesse dans le plus profond de mon cœur, voyez-vous. Il ne faut pas perdre de vue que l'électricité constitue un des piliers de 5 chantiers du chef de l'État. Et le chef de l'État avait lancé les 5 chantiers, ce n'est pas hier ou avant-hier. C'est au lendemain même de son investiture que les 5 chantiers devraient en fait se matérialiser avec, bien sûr, le concours des instruments institutionnels habilités. Par là, je voudrais dire le gouvernement avec la CNEL, avec la régie des eaux, pour ne se limiter que sur le secteur de l'énergie. Mais on s'est rendu compte que, bon, les 5 chantiers, on continue à le chercher. En ce qui concerne le volet électricité, le volet eau, du moins je suis peuple, je suis fondé à le dire. Et curieusement, on se rend compte que 4 années après, on nous parle d'un programme d'extrême urgence. Il faut bien poser les mots. Voyez-vous, le programme, c'est si un programme d'extrême urgence pour améliorer, en compte de la dégradation de la desserte de l'électricité et de l'eau dans la ville, pour ne parler de la ville de Kinshasa. Mais quand on parle de l'extrême urgence, c'est que quelque part, il y a eu des failles pour que nous en arrivions, non pas à l'urgence, mais à l'extrême urgence. Là, on ne nous dit pas trop bien où sont ces failles-là, à quel niveau se situeraient quelles et quelles sont les responsabilités qu'on a pu dégager par rapport aux failles que nous avons constatées dans la production comme dans la distribution de l'eau et de l'électricité. On ne nous dit pas trop. Curieusement, on parle d'un montant de 51 millions de dollars. Bon, je suis aussi stomaqué d'entendre de l'ADG de la SNEL que ce montant ne saurait pas, en fait, permettre à la SNEL de faire face, du moins, sur ce qui se défile dans l'opinion, sur les attentes même du peuple, au lendemain du lancement de ces programmes, aux différents problèmes auxquels reste confrontée la SNEL. Et là, je me dis, la SNEL, je ne la vois pas en tant que société, mais je vois la SNEL en tant qu'un instrument technique du gouvernement en matière de production et de distribution de l'électricité. Donc, sur quelle base on est parti pour arrêter ce montant de 51 millions de dollars? Dès lors que même l'honorable Mounabandi l'a reconnu, l'a désiré aussi que le montant ne saurait pas en fait constituer le boom que la SNEL attendait, mais c'est pour revoir son réseau électrique dans la ville de Kinshasa. Voilà en fait des problèmes. Mais là-dessus, ça ne tournerait pas d'autant plus que nous l'avons dit dès le départ. On a élevé l'électricité en chantier
Mais on ne nous a pas fait. L'honorable parle de l'état des lits actuels. Mais quand on a élevé l'eau et l'électricité en chantier, mais il a été dit auparavant que le président de la République n'était pas des magiciens. Donc le président a fait de l'eau et l'électricité et chantier de la République. Mais qu'est-ce qu'on a fait par après? On devrait présenter à la nation l'état des lieux réels de ces cinq chantiers en termes de l'eau et de l'électricité pour que l'exécution de ces cinq chantiers puisse emporter la désir du peuple. C'est ce qui n'a pas été fait. Donc, il n'y a eu aucune statistique fiable qu'on nous a présentée au début de l'investiture du chef de l'État avec sa politique de cinq chantiers et qu'uniquement on voit tantôt pour ce qui est de l'électricité, on met une cabine ici, on met une cabine là-bas, on dit que c'est les cinq chantiers. Non. Ça, c'est on est en train de faire du galvaudage. Donc, je crois savoir qu'avec ces programmes ici, il va falloir quand même qu'on puisse essayer un peu de bien expliquer à l'opinion pour que l'opinion comprenne réellement ce que voudrait dire ces programmes d'extrême urgence. Parce que ce n'est pas le premier credo que nous entendons du gouvernement.
Et est-ce qu'il ne faut pas saluer quand même, Patrick Lindo, ce programme d'extrême urgence du gouvernement?
Je veux vous dire une chose. J'ai suivi la SNEL nous dire le prépayement de la consommation en électricité constituer une des solutions contre le délestage. Il faudrait que le gouvernement et la CNEL nous disent on a quitté le prépayement, on en est maintenant à l'extrême urgence. Donc je saluerai cela. Mais madame, mais à mon âge, je n'ai plus l'âge de saluer tout ce qui peut être salué. Voyez-vous, j'en ai entendu des programmes, j'en ai vu des choses. Ce qui importe pour moi, c'est quoi? Et c'est ce qui importera aussi pour l'ensemble du peuple qui nous suit, c'est qu'on veut voir des réalisations palpables. On voudrait que le gouvernement et la SNEL, la Régie des eaux s'entendent, ou pour que le peuple ne se dise pas aujourd'hui que les cinq chantiers eau et électricité constituent des simples vœux pieux. Voilà en fait. Il faudrait que le gouvernement et la SNEL, la Régie des eaux y compris, puissent faire en sorte que dans les timings du mandat du CES, et qu'on puisse sentir qu'effectivement, l'eau et l'électricité ont été élevées au rang de chantier. Mais malheureusement, à la fin de la mandature, ben, ce n'est pas pour rien que certains auditeurs nous posent des questions dans ce sens. À la fin de la mandature, on nous lance le programme d'extrême urgence.
Merci, Patrick Lindo. Monsieur l'ADG Yongo Massankou, comment vous réagissez à toutes ces préoccupations soulevées par les députés Sébastien Voulabane et M. Patrick Lindo?
Mais c'est vraiment beaucoup de préoccupations, je me rends compte.
Le montant, l'état des lieux de la SNEL.
Tout à fait. Je salue également l'honorable. Vous l'avez dit, aussi en passant, il y a beaucoup de préoccupations que je vois, mais nous allons essayer de répondre très rapidement. Pourquoi tu cherches ça seulement? Je répète ce que je disais tout à l'heure là, c'est pas seulement qu'il cherche ce qui est pris en compte. Il y a une situation ponctuelle qui s'est présentée ici, qui siège des institutions, qui a amené les autorités de faire un constat et de dire qu'il fallait résoudre ponctuellement ce problème. Donc, tout le reste du pays est aussi pris en compte, comme je l'avais bien dit. Il a voulu peut-être que je cite certaines choses qui se font, mais il n'y a qu'à descendre. Je prends l'exemple, il n'y a qu'à descendre le Lubumbashi, qui voit les travaux que nous sommes en train de faire pour l'extension des postes de Kassapa, pour l'assainissement de la ville, c'est des trois villes même, le Lubumbashi, le Kassikolosi, où nous montons à Kisangani, il y a un programme avec la coopération belge que nous sommes en train de poursuivre. Donc, ce n'est pas seulement qu'il y a ça, mais c'est ça qui a été médiatisé, mais nous avons bien dit la situation de Kinshasa s'est dégradée ponctuellement parce qu'il y a eu ces problèmes de câbles sur l'avenue Mojiba et l'avarie des transformateurs au niveau des postes de Bandalungwa. C'est ça qui était beaucoup plus marquant parce que c'est pratiquement la moitié de la capacité du poste de Bandalungwa qui était en péril. Donc, il fallait bien servir de peu, en commençant par des installations stratégiques comme la Régie des eaux et d'autres sites. Et voilà. Donc, l'état des lieux, rassurez-vous, que ce soit Maître Paty ou l'honorable
Voulabandi,
eh bien, on ne peut pas s'élancer. Je crois avec un peu de considération, la SNEL ne peut pas exister sans programme. L'état des lieux existe. C'est ce qui nous permet de dire que nous avons besoin de X millions pour arranger la vie de Kinshasa. C'est parce que nous avons fait un état des lieux clair et une évaluation aussi précise que vous. Si aujourd'hui vous amenez 100 millions, nous allons les absorber dans des conditions bien définies, avec une traçabilité claire, parce que la situation est là-dessus bien définie. Ce n'est pas un chantier que nous venons de commencer maintenant, comme cela a été dit, non. C'est censé, je voulais te déclarer, la SNEL continue à travailler. C'est vrai, nous lisons sans gêner que le moyen fond réellement défaut par rapport à la sollicitation. Nous venons de très loin. Faut pas perdre de vue, ça même, nous venons de très loin. J'ai toujours dit, quand ce qui vivent dans les pays nordiques, là-bas, eh ben, vous êtes à moins 20, vous êtes à moins 20, c'est en dessous de zéro. Mais même quand vous évoluez, le lendemain matin, la météo annonce que nous sommes à moins 10, tout c'est vraiment bien amélioré. Gagner 10 degrés, c'est beaucoup, mais vous êtes toujours en dessous de zéro. Vous savez, il fallait d'abord savoir d'où nous venons et où nous allons, pour se dire exactement si les choses sont en train de se faire.
Alors, l'honorable a parlé d'un comité mis en place pour
piloter ce
programme. Il est constitué de qui?
C'est calme, c'est vrai. Ce n'est pas le gouvernement qui est en train de travailler à la place de la SNEL. Le gouvernement a plus ses responsabilités, il y a un pilotage, puis c'est au niveau de ministère. Mais les comités de gestion de ce programme d'urgence existent bel et bien à la SNEL. Les gens peuvent venir le voir, ils se réunissent régulièrement, sont en train de faire les points, l'évaluation d'une manière permanente. La SNEL pilote d'une manière responsable le programme en question. Donc, c'est le gouvernement, c'est normal, et puis le Premier ministre a organisé une réunion, le ministre de l'Énergie a relayé, tout ceci venait du président de la République, mais je insiste là-dessus, c'est un constat qui est fait, mais qui n'a aucune corrélation, disons, politique ou électorale. Les gens, comme tout le monde le dit, ont besoin de l'électricité. Nous avons l'obligation de l'amener dans des conditions convenables. S'il y a quelque chose qui se dégrade, nous devons l'arranger, indépendamment de l'état de temps dans lequel nous nous trouvons.
Alors, monsieur, là, déjà, on va prendre pour vous cette question qui nous vient de Boutembo, au Nord-Kivu.
Docteur Kennedy, depuis la ville de Boutembo, dans le Grand Nord-Kivu, juste une question de savoir la suite du projet de l'électrification du Nord Kivu par les courants venant de l'Ouganda. Ça fait plus de 2 ans que les câbles à provenance de l'Ouganda sont au niveau du poste frontalier de Kasindi, où probablement celui-ci est éclairé. Lors du passage du président de la République dans ce coin, il avait promis à la population que ces courants devraient alimenter Bunia, Beni, Butembo et Lubero. Où en sommes-nous?
Monsieur Ladege, où en sommes-nous?
Oui, où en sommes-nous? Nous avons eu un financement qui nous permet de faire les études à partir du poste de l'Ouganda pour passer, en passant par Butembo, Beni et Bunia. Ça, c'est une ligne haute tension qui va être élevée. Les études sont déjà, disons, attribuées à des bureaux bien précis. Et concernant la ligne dont il parle, c'est au poste de Kasindi. Nous avons eu à, effectivement, électrifier Kasindi. Kasindi fait partie, donc, de centres qui sont électrifiés, mais c'est à partir du réseau de l'Ouganda. Nous prenons de l'électricité là-bas, nous distribuons correctement à Kasindi, mais cette ligne n'est pas appelée à aller plus loin. C'est une ligne moyenne tension qui n'est pas appelée d'aller au-delà d'une cinquantaine de kilomètres. Voilà ce que je peux dire pour le moment.
Monsieur Ladege, vous avez donné de numéros verts par rapport à ce programme-là, ce programme que le gouvernement vient de mettre en place, des numéros verts sous lesquels les clients peuvent appeler pour communiquer avec la SNEL. Mais il y a beaucoup de clients qui se plaignent du fait que quand ils appellent, d'abord c'est payant, ce n'est pas gratuit, c'est payant, et puis ensuite quand ils appellent, ils ne sont pas satisfaits des réponses qu'on leur donne par les agents de la SNEL.
C'est possible, c'est un problème que nous avons mis un call center en place, donc le personnel qui est habilité à gérer ce call center, tout le monde n'est pas encore mis en place, c'est possible qu'il tombe sur quelqu'un qui n'a pas encore le renseignement qu'il devrait fournir à celui qui appelle.
Et le numéro est payant?
Le numéro, il va être réellement vert, il y a certaines
conditions. Il n'est pas encore vert?
Non, disons que je dois avoir des précisions, mais j'avais eu... les contacts ont été pris par les services pour les rendre réellement verts. Donc, si maintenant j'apprends qu'il est payant, ce sont des petites choses qu'on doit voir qui ne remontent pas nécessairement à notre niveau. Mais maintenant que j'ai l'information, le problème va être pris en charge.
Merci. La libéralisation de ce secteur serait-elle une solution efficace pour améliorer la fourniture en courant électrique sur toute l'étendue du pays? C'est la deuxième partie de cette émission. Le projet de loi relatif au secteur de l'électricité a été jugé recevable par les députés réunis en plénière vendredi dernier. C'est à la suite du débat général consacré à ce texte visant entre autres la libéralisation de ce secteur. Répondant aux préoccupations des députés, le ministre de l'Énergie a notamment fait savoir que le programme de l'espace zéro n'est pas un slogan comme d'aucuns pourraient le croire, mais plutôt un objectif du gouvernement qui, cependant, nécessite d'importants moyens financiers. Mimi Ngumba pour les détails.
Selon le ministre Gilbert Tongo, Il a été mis en place un programme d'extrême urgence dans le secteur de l'électricité qui exige un montant total de 51 millions de dollars pour sa réalisation. Toujours dans le cadre de l'élimination du délestage, le ministre Tiong a informé la représentation nationale qu'il est prévu des actions de partenariat avec des entreprises étrangères.
Ces actions de partenariat avec les entreprises égyptiennes concernent en première phase 8 communes de la ville de Kinshasa suivantes: Kasavubu, Kalamu, Ndilingin, Kintambo, Ngaliema, Bandalungwa, Limete, Barumbu, et c'est pour un coût global d'environ 200 millions de dollars.
Avec des bailleurs de fonds comme la Banque mondiale, il est attendu la construction du poste de Kimbaseke avec un raccordement de plus de 50 000 nouveaux abonnés, a-t-il affirmé. Quant aux 20 transformateurs distribués dans la capitale, le bilan semble mitigé, car l'action a été annihilée par les pannes successives du poste haute tension de Lingwala, a-t-il avoué.
Cependant, le seul remplacement des transformateurs ne suffit pas pour résoudre le problème de délaissage. Il faut des actions en amont, c'est-à-dire en production, pour augmenter la puissance, aujourd'hui déficitaire, et en aval dans le réseau de distribution par le remplacement des câbles à basse tension dénudés et vêtus.
Signalons que le projet de loi sur l'électricité, jugé recevable par la Chambre basse du Parlement, sera envoyé à la Commission aménagement du territoire de l'Assemblée nationale pour une étude approfondie avant son adoption.
Célestin Vounabande, vous êtes député national élu de Rutshuru. La libéralisation de ce secteur serait-elle une solution efficace pour améliorer la fourniture en courant électrique sur toute l'étendue de la RDC?
Oui, je pense que la libéralisation de la fourniture d'eau et d'électricité dans ce pays, c'est une très bonne chose. Une très bonne chose parce qu'en réalité, le monopole n'est pas du tout protecteur du consommateur. Le monopole n'est pas protecteur des consommateurs parce que d'abord, le consommateur n'est pas du tout bien servi, c'est-à-dire que la qualité du service laisse à désirer, généralement en cas de monopole. Deuxième chose, c'est que les prix sont généralement fantaisistes, ils ne sont pas, même lorsqu'ils soient administrés. Troisièmement, c'est que pour obtenir ce dont il a besoin, du filet, l'électricité ou comme l'eau, les clients déboursent beaucoup plus que si le service était de qualité. Je vais donner un exemple, je continue que c'est que les citoyens d'Ingilie ou de Kinshasa périphérique paye pour la braise ou pour l'eau est bien plus important que ce qu'ils payeraient si on les fournissait du courant de bonne qualité. C'est qu'un citoyen de la Gombe ou de ma campagne paye pour le carburant de son groupe électrogène est bien plus important, plus cher, n'est-ce pas, que ce qu'il paierait pour à la fin si l'énergie électrique était de bonne qualité. Donc voilà pourquoi j'ai dit que il est bon de libéraliser justement pour que la qualité s'améliore et que tout le monde se retrouve. Quatrièmement, c'est que même l'entreprise qui bénéficie du monopole ne gagne pas suffisamment ni pour elle-même ni pour l'État. Il convient de voir déjà ici les cas de la SNEL et de la RIESO qui sont dans une situation de déficit chronique en dépit des monopoles dont ils bénéficient. Bon, bref, je voudrais dire que la libéralisation de la production de l'eau et de l'électricité au pays est une très bonne chose parce que cela va libérer les initiatives privées et concourir à l'amélioration de la qualité du service. Cela permettra aussi une mise en valeur de tous les potentiels à ressources énergétiques que le pays regorge. Cela va permettre bien sûr à l'État de s'occuper de l'essentiel. L'essentiel c'est quoi? C'est veiller sur la qualité des services. C'est protéger les consommateurs par l'entremise, bien entendu, j'imagine, des organes de régulation qui seront mis en place. Et cela va permettre à l'État de se consacrer justement à l'essentiel qui est aussi de mobiliser les ressources, n'est-ce pas, dont il a besoin pour promouvoir une véritable politique énergétique au pays. Et voilà donc pourquoi je suis pour une libéralisation de la fourniture de l'énergie et de l'électricité. Et laisser la semaine, l'argile des eaux évoluer dans un contexte de compétition où les meilleurs, finalement, vont fournir les meilleurs services à la population.
Alors, vous restez en ligne, Sébastien Mlabane, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
L'honorable Pouela Albert Fabrice, député national élu de la ville de Matadi. Je pense que la solution pour moi n'est pas forcément de privatiser la SNEL ou changer de dénomination. Ce qu'il faut pour la Société nationale d'électricité, c'est que l'État congolais devienne plus responsable. Privatiser ou ne pas privatiser, il faut que l'État congolais puisse honorer les factures de la Société nationale d'électricité parce que on peut même prendre des anges pour venir diriger la Société nationale d'électricité, le même corps causes produiront toujours les mêmes effets. Nous ne devons pas nous étonner aujourd'hui, l'outil de distribution d'électricité a vieilli et la SNEL ne s'est pas renouvelée. Tous les problèmes se posent là, la SNEL a besoin d'argent. Donc pour moi, la privatisation, je ne crois pas que ce soit une panacée.
C'est le chef, vous n'avez pas de brève réaction.
Oui, ma réaction, c'est que jusqu'à là, j'ai parlé de la libéralisation de la fourniture d'électricité de l'eau et non pas de la privatisation de la SNEL et de la régie des eaux. Libéraliser signifie faire en sorte que les secteurs soient compétitifs, permettre aux privés de pouvoir évoluer à côté de la SNEL, à côté de la régie des eaux, alors que la privatisation signifie que l'État se désengage au profit des privés. Voilà pourquoi je pense que là, ils ne font pas confiance. Je ne suis pas totalement d'accord avec le collègue qui considère que la privatisation n'est pas une bonne chose. C'est une question, je pourrais intervenir en son cas pour parler un peu de la privatisation. Pour l'instant, je me limite à ce qu'il dit.
Merci, Célestin. Vous n'avez pas dit, Patilendo, libéralisation ou privatisation. Quelle est la solution pour la SNEL?
Je dirais d'abord, avec votre autorisation, qu'il faudrait que le président commette. Voyez-vous, il y a une cagnotte de 51 millions pour le premier volet de notre intervention. Il faudrait à tout prix que le président commette une maison d'audit comme cela s'est fait ailleurs pour qu'on puisse suivre les différentes affectations de ces 50 millions-là. Ça, c'est très important. Et surtout que, si là, je le dis vraiment à quelqu'un avec lui, d'autant plus que lui-même, il a lancé la tolérance zéro. Je viens maintenant à la deuxième, je dirais au deuxième volet de notre intervention, la libéralisation. Je suis d'accord avec l'honorable point là. Il faudrait que l'État devienne de plus en plus regardant dans ces pays pour qu'on ne se laisse pas passer n'importe quoi. Et en plus, l'honorable Célestin a applaudi en fait à la libéralisation telle que proposée par le ministre de l'Énergie. Vous savez, le ministre de l'Énergie, c'est l'un des meilleurs Congolais qui ont fait montre en fait du sérieux dans la gestion de la République. Et ça, ça constitue une légende que la nation ne saurait pas effacer aujourd'hui. Eh bien, la libéralisation. J'aurais voulu sincèrement, en âme et conscience, en apporte même de l'éveil patriotique, si vous voulez, que les honorables députés exigent d'abord, avant de pouvoir lever telle ou telle option par rapport au projet du ministre Tshombo, qu'ils exigent d'abord des contrôles parlementaires dignes de ce nom, des contrôles parlementaires sérieux, à la SNEL comme à la Régie des eaux, de manière à leur permettre, si option doit-elle être levée, à pouvoir le faire à bon escient. Mais, nous sommes encore dans cette république des bons Français. On croit que quand on parle bien le français, on a juste bien le mot. Eh bien, on peut applaudir et ça laisse passer. Non, les députés n'ont pas toujours la technicité voulue pour pouvoir être à même de pouvoir juger du bien fondé de cette grave politique, grave mesure de libéraliser aussi l'eau et l'électricité dans un pays comme le nôtre, où le peuple baigne dans une précarité sociale qui n'a pas de nom. L'eau et l'électricité constituent des agrégats sociaux, si vous voulez, et auxquels il faudrait que le gouvernement y accorde suffisamment d'attention. On veut bien libéraliser, mais nous savons, quand l'investisseur vient avec son 10 000, mais il ne vient pas pour pouvoir faire des mabons aux Congolais, il vient pour que ces 10 000 puissent être fructifiés par le travail, bien sûr. Mais là, c'est quoi le problème? Eh bien, c'est serré comme on voit dans les quartiers entiers où il n'y a pas de courant, on vous envoie des factures, et si vous ne payez pas, l'État se sert de ses griffes pour imposer le paiement. Ça ne se fait pas comme ça. Je pense que cette loi, ou ces projets de loi, mérite d'être encore placé dans une réserve pour que les députés aient suffisamment le temps de pouvoir se prononcer sur la question. Voyez-vous, c'est une question très capitale, d'autant plus que l'eau et l'électricité, comme je l'ai dit pour ne pas me répéter, constituent des agrégats très sérieux de la sociabilité même.
Et si on vous comprend bien, vous n'êtes pas chaud pour que ce secteur soit libéralisé.
Non, je dis ceci, la libéralisation doit être précédée des contrôles sérieux donc, pour voir ce qui se fait à la Régie des eaux et à la SNEL pour que le peuple sache, voyez-vous, il ne faudrait pas que libéraliser puisse encore servir pratiquement de cache sexe pour que le peuple ne soit pas à même de pouvoir effectivement accéder à l'information, la vraie, en ce qui concerne la gestion de son eau et la gestion de son courant ou l'électricité.
Merci, Patilendo. Monsieur l'ADG, votre point de vue sur la libéralisation du secteur de l'électricité?
Oui, je crois que pour gagner un temps, je suis vraiment de l'avis de l'honorable Célestin. L'approche de la libéralisation, elle est dans ce sens-là, pour ne pas répéter ce qu'il a eu à dire. Mais il doit se rassurer d'une chose, c'est que La SNEL n'a pas de texte qui fait que c'est une société qui a le monopole de distribution ou de production de réfugiés. Mais le secteur maintenant va être très bien clarifié avec ce projet de loi. Mais il n'y a pas de monopole du côté de la SNEL, s'il y en a du côté de la Régie des Eaux. Je voudrais revenir très rapidement aussi, rassurer Maître Prétiline. Donc, on peut envoyer même les auditeurs même demain pour rassurer tout le monde pour ce que nous avons déjà commencé, parce que nous avons déjà commencé, il y a des actions qui sont déjà en service, donc les groupes qui sont déjà en service. Il n'y a aucun problème pour la situation parce que la traçabilité est là et très bien établie. Mais je suis un peu étonné qu'ils disent qu'il y a des quartiers où il n'y a pas du courant, mais on envoie des factures et puis les gouvernants réservent. Non, s'il n'y a pas du courant, qu'est-ce que la SNEL viendrait couper? Ne soyons pas contradictoires. Il n'y a pas de courant, il n'y aura rien à couper.
Mais c'est vrai, monsieur l'ADG, il y a des agents qui viennent laisser les factures dans les quartiers qui ont fait pas 3 mois, 6 mois sans courant.
Mais après, ils viennent de couper. Couper quoi?
Si
vous dites qu'il n'y a pas de courant.
Non,
entendez-nous bien. Si vous avez eu du courant pendant, c'est pas moi, 10 jours sur 30, mais les 10 jours sur 30 sont pas des journées gratuites, les réfugiés étaient consommés, c'est pour cela qu'il fallait bien établir des factures qui correspondent à ces tiers de la période que vous avez à consommer. Là, vous devez payer, parce que cela n'est pas gratuit non plus. S'il y avait une petite trace de gratuité, croyez-moi, c'est la mort du secteur. Or, la mort du secteur de l'électricité, comme tout le monde est en train de le confirmer, c'est la mort d'une manière brutale de tout certain secteur de vie de la République.
Alors, je vais dire, allez-y, terminez votre phrase.
Oui, je suis avec Maître Célestin. D'accord, il faut mobiliser des ressources. C'est vrai, c'est ça la grande bataille qu'il faut mener. Le gouvernement fait sa part avec les différents contacts qui sont pris au niveau de la Banque mondiale, de différentes banques. La semaine fait aussi sa part avec les différents contrats dont le ministre Tongo a eu à parler. Et c'est une partie du gouvernement, la SNEL, qui cherche de moyens qu'il faut, parce qu'il faut beaucoup de ressources pour assurer, stabiliser ou améliorer la desserte de l'Est. Ce que nous sommes en train de faire, mais c'est certainement pas suffisant, mais nous devons faire quelque chose pour que le système ne tombe. Parce que la mort de la SNEL, c'est la mort subite de tous les secteurs.
Alors, j'allais répondre brièvement à cette question des autres auditeurs qui demandent que deviendra la SNEL après le grand changement qui va s'opérer dans le secteur de l'énergie en RDC à la suite de la libéralisation de ce secteur.
La SNEL sera aussi un acteur parmi tant d'autres. Donc, s'il y a des secteurs, si le secteur est libéralisé, la SNEL fera aussi sa part. Comme l'honorable dira, la SNEL n'a pas à ce moment-là travaillé correctement pour que la qualité de ce qu'elle serait comme. Et l'offrira à sa clientèle soit meilleure par rapport à d'autres qui viendraient dans le secteur.
Voilà, nous sommes presque à la fin de notre émission, j'allais dire. Célestin Bounabandi, conclusion, un mot en guise de conclusion pour terminer cette émission.
Oui, je pense qu'il faut encourager le ministre Tongo dans l'exercice qui est le sien aujourd'hui, qui consiste à proposer la libéralisation du secteur. Et je pense qu'il ne faudrait pas confondre cela avec la privatisation de la SNEL et de la Régie des Eaux. Je pense aussi que cette privatisation est une bonne chose, mais qu'il faut la faire, pas de manière précipitée ni sauvage. Il faut éviter la précipitation, parce qu'il faut préparer ce processus, éviter la privatisation, préparer un plan social pour le personnel de ces entreprises et s'assurer des minimums de viabilité des entreprises à privatiser avant de le faire. Deuxièmement, j'ai dit qu'il faut éviter une privatisation sauvage parce que les opérations de privatisation vont se faire de manière encadrée avec le maximum de transparence et surtout de manière rationnelle pour éviter que la production de l'eau tout comme de l'énergie électrique ne tombe dans les mains d'un expert en quelque sorte.
Merci Célestin Bounabandi. Patilendo, conclusion.
L'eau et l'électricité, c'est la vie. Donc, j'aimerais que toute la République, quand il faut parler de l'eau et de l'électricité, puisse aborder cette question avec sens et calme, voyez-vous, avec passion républicaine, de manière à ce que l'on puisse se rendre réellement compte de la place qu'occupe l'eau dans la vie du peuple et de la vie de l'électricité, surtout que les deux ensemble constituent en fait les agrégats du millénium. Le peuple a droit à l'eau et à l'électricité de bonne qualité.
Merci, Patilendo, monsieur Ladejo. Votre conclusion.
Libéraliser ou pas, la SNEL doit continuer sa mission. En attendant que tout ce texte vienne régler le problème et rendre meilleure la vie des citoyens congolais, la SNEL, on peut compter sur elle En dépit de tout ce qu'il y a comme difficulté, même ponctuelle.
Et améliorer aussi les services.
Naturellement, non seulement c'est tout ce que nous sommes en train de faire, et la population de Kinshasa à ce programme d'urgence verra également la différence par rapport à cette période ici.
On vous posera la question après cette mois, monsieur l'ADG, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais, Guy Maté, Alain Rung, Samuel Kachat, sous la supervision des télé de Martin Sebujango et Kéline Koutopé au micro, William Lungamba à la technique. Rediffusion de l'émission 14h, heure de Kinshasa demain. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.
Pour participer à l'émission, appelez-les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocati.net.